message que j'avais commencé mais que j'avais pas terminé, donc ce sera pas trop long ce matin. C'est sur les fils de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Hein. Quand je dis fils, c'est compris fille aussi, mais la parole de Dieu reste sur le terme fils. Vous allez comprendre un petit peu plus tard aussi pourquoi. Je disais, alors dis à ton voisin, ta voisine, tu es fils de Dieu. Hein? Voilà, que vous soyez bien conscient que c'est quelque chose qui est biblique. Nous sommes fils de Dieu. Je rappelle ce que j'avais commencé déjà à vous dire la dernière fois, que notre existence de fils, nous le devons au Père. C'est le Père, grâce au Père, Dieu le Père, créateur de toutes choses, qui a eu cette idée, cette invention de faire des fils de Dieu. Amen. De faire de nous des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et Dieu a voulu cela pour avoir une famille. Voyez-vous, Dieu, il aime les familles. Toute famille vient de Dieu. C'est ce que dit Paul dans Éphésiens. Et la famille, c'est quelque chose qui, dans lequel il y a un père. Un père, une mère, mais le père est celui qui engendre, celui qui est à l'origine. Dieu le Père est à l'origine de toute chose. Et si nous sommes enfants, si nous sommes fils, c'est nous le devons au Père. Déjà dans Deutéronome, donc dans les premiers livres de la Bible, il est écrit « L'Éternel n'est-il pas ton Père, n'est-il pas ton Créateur ?» Deutéronome 32. Nous sommes donc des fils de Dieu grâce à la création que Dieu a voulu faire. Dans Romains chapitre 8, il est dit « Nous sommes donc redevables à Dieu qui est esprit pour vivre selon l'esprit. » Voyez-vous, le Seigneur est esprit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et comme Dieu est esprit, eh bien nous devons marcher par l'esprit pour être fils de Dieu. Amen. Pour être comme Dieu, pour communier avec Dieu en esprit. On communie avec Dieu en esprit. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que le Père nous aime. Nous sommes des enfants qui sommes aimés de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé du Père. Tu es aimé tendrement du Père. Voyez-vous ? C'est un amour tendre. C'est pas un amour avec un fouet à la main. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens qui ont eu malheureusement des pères difficiles, pour pas dire tyranniques, ont du mal à imaginer un père aimant. C'est naturel, mais il faut en être guéri pour voir Dieu non pas comme notre père tyrannique, parce que Dieu n'est pas tyrannique. Amen. La preuve, c'est que tous les Français qui ne veulent pas de Dieu, il ne leur en veut pas. Et simplement, il attend qu'ils comprennent et il compte sur nous pour qu'on intercède, pour qu'on prie pour nos concitoyens, pour qu'ils ouvrent les yeux. Mais Dieu les accueille. Chaque Français qui vient dans les bras du Père, il est accueilli. Il ne fait de reproche à personne. Mais nous devons prier. Nous devons prier pour qu'il y ait un réveil spirituel. Mais Dieu nous aime tendrement. Dans le psaume 103, il est dit « Car l'amour d'un père pour ses fils, l'amour de Dieu pour ceux qui le craignent. » C'est le terme « père » qui est utilisé, « d'un père pour ses fils ». Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1er, il est dit « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » Nous sommes enfants de Dieu, aimés par Dieu. La troisième vérité que j'avais soulignée, c'est que l'enfant ressemble à son père. Il y a une ressemblance entre le père et le fils. Amen. Et c'est pourquoi Jésus, eh bien, il a dit « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » parce que Jésus reflétait le Père. Jésus ressemblait au Père. Amen. Moi, j'étais un peu privilégié dans mon enfance parce que mon père, il s'appelait Charles, et mon grand-père s'appelait Charles. Alors, c'était difficile. Donc, il a dû s'appeler Charles le fils pour le différencier. J'ai encore les petits médaillons parce que non seulement il s'appelait Charles, mais mon père était chaudronnier et mon grand-père était chaudronnier. Donc, il y avait un chaudronnier Charles et un chaudronnier Charles, mais il y avait le Charles le père, le Charles le fils, voilà. Vous voyez, c'est cette continuité dans la famille qui faisait qu'il y avait un héritage, qu'il y avait une continuité, et qui m'a donné cette notion de continuité aussi, de tradition, des bonnes traditions où on transmet un patrimoine. Hein. Bon, ça allait plus loin parce que mon père était conseiller de fabrique, mon grand-père était conseiller de fabrique, c'est le conseil d'église à l'époque. Hein. Était le chef de la chorale, enfin le représentant de la chorale, mon père aussi. Enfin, il y avait beaucoup d'imitations et ça m'a beaucoup frappé, cette ressemblance entre le Père et le Fils. Mais plus que ça, Jésus a cette ressemblance parfaite. Si on voit Jésus, et c'est pour ça que Dieu a voulu s'incarner dans son Fils, pour nous montrer qui il est, pour nous montrer qu'en tant qu'humain, comment Dieu aller se comporter. Oui, le comportement est important, parce que le comportement traduit une nature intérieure. Et le comportement de Jésus traduit le comportement du Père dans l'esprit par rapport à nous qui sommes les fils spirituels. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pourquoi regarder à Jésus, c'est regarder au Père. C'est pourquoi imiter Jésus, c'est imiter le Père. Voyez-vous, la ressemblance, elle est parfaite. Et bien sûr, nous avons du mal à arriver à cette ressemblance, mais le Seigneur veut nous aider. Dans Romains 8, verset 14, il est dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Non seulement nous devons ressembler, mais le Seigneur nous donne la possibilité de lui ressembler par l'Esprit. Si nous marchons par l'Esprit, eh bien, nous sommes conduits à nous conduire comme Jésus. Regardez Jésus lui-même, il comptait sur l'Esprit. Il était rempli de l'Esprit. Au moment de son ministère terrestre, hein, au moment de son baptême, au moment de quand il a été conduit au désert, il était rempli de l'Esprit Saint. Amen. Et regardez l'Église, regardez les disciples, eh bien, à la Pentecôte, ils ont été remplis de l'Esprit Saint. Amen. Et grâce à ce remplissage, si vous voulez, grâce à cette complétude de l'Esprit, à la Pentecôte, Pierre a pu se lever et a pu être l'apôtre sur lequel Dieu a pu compter. Parce que malgré les épreuves, malgré le martyr, malgré les échecs qu'il a dû essuyer, Paul l'a repris plusieurs fois, même en tant qu'apôtre, eh bien, il était repris, mais il n'a pas baissé les bras. Il s'est laisser transformer, c'est laisser conduire pour conduire l'Église, le peuple, le troupeau que le Seigneur lui a confié, pour imiter Jésus. Et il semblerait qu'à sa mort, je ne sais pas si c'est une légende, il a demandé à ce qu'il n'est pas digne et d'être crucifié comme Jésus. Il a voulu être crucifié la tête en bas. Et la croix a été retournée pour lui, pour vraiment montrer qu'il n'était pas digne de la même chose que son maître, mais il voulait être soumis à son maître. Le moyen pour ressembler, c'est d'être à l'image de Dieu. Voyez-vous, Dieu nous a créés à son image. Rappelez-vous la Genèse ? Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Mais cette image s'est ternie. Cette image a été polluée par le péché, par la désobéissance. Et c'est nous aussi, nous avons reçu cet héritage qui n'est plus l'image de Dieu. Et regardez ce que l'homme arrive à faire dans les sociétés, dans tout ce que vous pouvez voir, la guerre en ce moment, les atrocités qu'on peut voir, imaginer, jusqu'où ça peut aller. Ce n'est plus l'image de Dieu. Mais le Seigneur veut nous restaurer dans cette image. Amen. Il veut nous rétablir dans cette image, l'image de son Fils. Dans Romains 8, verset 29, a marché ce matin. Romains 8, verset 29. Il nous a destinés à l'avance à être semblables à l'image de son Fils. Voyez-vous, comme notre image a été corrompue à la Genèse avec Adam et Ève, eh bien Dieu a décidé de nous donner une seconde chance, de nous redonner une chance, ce qui n'est pas le cas pour les anges. Pour les anges, il n'y a pas de rédemption. Mais pour nous, il y a une rédemption. Dieu veut nous racheter pour que nous puissions retrouver l'image que Dieu voulait nous donner à son image. Voyez-vous quelle grâce, quel plan merveilleux pour les humains que le Seigneur a eu. Et il veut que nous ressemblions à son image. C'est pour ça l'apôtre Paul, qui a bien reçu cette révélation de la rédemption, du plan de Dieu pour nous, il nous invite, il nous exhorte eh bien, à faire des efforts. À faire des efforts, non pas pour être sauvés, parce que nous recevons par grâce, mais à faire des efforts pour ressembler à Jésus. Et ça, c'est des efforts. Ça, c'est des efforts. C'est que tous les jours, comme l'a dit Michel, c'est de porter notre corps en sacrifice. C'est ça l'effort. C'est dire, Seigneur, je t'offre mon corps, il est limité, il n'arrive pas à te ressembler, mais Seigneur, toi, tu vas le faire ressembler à ton image aujourd'hui. Tu vas me montrer les choses qui doivent changer, etc. etc. Amen. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Troisième chose, c'est là-dessus que je voudrais un petit peu insister, c'est que le Fils, donc ça, ce sont des choses que nous recevons, dont nous sommes pour rien. Nous sommes créés par Dieu, nous n'y sommes pour rien. Nous sommes aimés du Père, nous n'y sommes pour rien. C'est Dieu qui nous aime en premier. Nous ressemblons au Père, nous n'y sommes pour rien. Ok ? Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Quelle est notre part ? Ah ben c'est cette partie-là. C'est que nous devons imiter le Père dans ses œuvres. Si nous avons compris que nous sommes créés, aimés, et que nous sommes créés à sa ressemblance, en tout cas dans cette destinée que Dieu a pour nous, et nous devons imiter le Père. Alors là, c'est très important ce que je vais dire pour bien comprendre les choses. Dieu est esprit. Amen. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent dans l'esprit et en vérité. Donc, en nous, il y a une partie d'esprit. Et c'est pourquoi nous devons recevoir l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la vie. Voyez-vous, les humains découvrent beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses. Des merveilles sur le plan de la technologie. Mais une chose qu'ils ne pourront jamais faire, c'est la vie. Parce que la vie, vous voyez, ils le cherchent sur Mars, ok. Ils le cherchent, ils peuvent le chercher où ils veulent, mais ils ne peuvent pas la créer, la vie. La vie, le seul qui puisse être capable de donner la vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu est la vie. Et l'esprit est la vie. Amen. Donc si nous recevons l'esprit, nous recevons la vie. Et c'est ce que Jésus explique à Nicodème, qui est un des plus grands enseignants de son temps, un rabbin. Qui connaît la Bible, qui connaît les Écritures, et qui vient vers Jésus de nuit, et lui dit, Jésus, on sait que tu es un prophète, je sais que tu es un prophète, mais qu'est-ce que je dois faire ? Il a dit, il faut que tu naisses d'en haut, d'en haut. Il dit, ah bon ? Mais c'est quoi ça ? C'est un nouvel enseignement que je ne connais pas. Il dit, oui, tu connais que les choses que tu connais naturellement. Alors Nicodème dit, mais explique-moi là, je dois rentrer dans le ventre de la mère pour renaître. Elle dit non, c'est pas ça. Tu dois naître d'en haut, de l'esprit, vous voyez. Et l'esprit, c'est pour ça qu'on dit que l'homme qui est pécheur, qui n'a pas Jésus, il est mort. Il est mort, bien que vivant, mais c'est un vivant biologique. C'est-à-dire, il tourne un peu comme si vous mettez le moteur en route et vous l'arrêtez, il continue à tourner et à un moment donné, il s'arrête. Voilà, c'est la mort. Donc l'homme il est mort par rapport à la vie, il n'a pas la vie puisque la mort va être à la fin. Mais quand on a Jésus, on reçoit la vie éternelle, parce que cette vie là elle ne peut pas mourir, parce que c'est Dieu, la vie c'est Dieu. Donc on reçoit Dieu dans sa vie, on est vivant, et la vie c'est l'esprit. Dans la Trinité il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et la vie c'est le Saint-Esprit qui la donne. Amen. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous, pentecôtistes, on insiste sur le baptême de l'Esprit. Non pas que ce soit un deuxième baptême, c'est le grand débat des théologiens. Hein. Par exemple, Levaux refuse ça en disant c'est pas une deuxième expérience. Ok, le problème, on ne va pas se battre sur la théologie. La réalité, c'est que le Saint-Esprit donne la vie. Et on ne peut être sauvé que par le Saint-Esprit. Donc, de toute façon, on reçoit le Saint-Esprit. Mais il faut le recevoir en abondance. C'est tout. Et c'est pas parce qu'on a reçu une fois le baptême de l'Esprit, il faut tout le temps le rechercher, ce baptême. Être plongé dans l'Esprit, c'est être plongé dans la vie. Alors, vous êtes d'accord? Alors recherchez. Recherchez l'Esprit. Demandez à l'Esprit. Et pour ceux qui, à la rentrée, veulent faire le TQP, peut-être pas la rentrée parce qu'on va le faire dès que c'est possible, eh bien, c'est la première leçon. Marchez par l'Esprit. Et vous ne marcherez pas par la chair. Marcher par la chair, c'est marcher vers la mort. Marcher dans l'Esprit, c'est continuer à aspirer la vie. Il y en a qui veulent la vie ici ? Qui veulent la vie ? Ben marchez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit. Et la vie va venir. La vie va venir. Amen. La vie va venir. Amen. Donc, il faut imiter le Père. Imiter le Père, c'est deux choses qu'il faut comprendre. Un, il est Esprit. Et deux, c'est un être moral. Ça veut dire quoi, un être moral? Une personne morale. C'est quoi une personne qui est morale? Allô? C'est important ce que je vous dis, donc il faut que vous me suiviez. C'est quoi un être moral? Sans défaut? Tout le monde est d'accord avec cette définition? Morale, c'est sans défaut? Pardon? Il est droit? Pardon? Voilà. C'est la notion du bien et du mal. C'est pas la question d'être juste, parfait, moral, droit. C'est la notion du bien et du mal. C'est la Genèse. Pourquoi Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin en leur disant, il y a deux arbres, un arbre de la vie, on vient d'en parler, l'esprit, et un arbre du bien et du mal. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'est deux choses qui sont importantes. La vie de l'esprit, la vie, et la moralité, être moral. Parce que vous ne pouvez pas être libre si vous ne pouvez pas faire le mal. Donc le mal, ça fait partie de la liberté, faire le bien et le mal. Mais Dieu a dit, ne fais pas le mal. Ne fais pas le mal, parce que moi je ne fais pas le mal. Mais il y en a un qui fait le mal, c'est Satan. Tous ceux qu'il a entraînés derrière lui. Donc voyez, le mal, l'origine, c'est spirituel. Donc ne cherchez pas le mal chez votre frère, là. Regarde ton frère, dis, je ne cherche pas le mal chez toi. Dis-le. Oui, oui. Parce que souvent, les églises, et beaucoup de personnes ne vivent plus dans les églises parce qu'ils se sont fait du mal. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. C'est simplement notre faute de ne pas comprendre que nous ne devons pas chercher le mal chez les gens. Nous devons le chercher dans Satan. Satan, c'est le principe du mal. C'est celui qui veut le mal et qui entraîne le mal. Donc c'est spirituel. Et un être moral, c'est celui qui pourrait faire le mal mais qui ne le fait pas. Dieu est bon. Dites Dieu est bon. Voilà. Parce que tous vos contemporains, et vous le savez, quand vous discutez au travail, au pause café, tout ça. Ouais, mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet les guerres? Un peu comme si c'est Dieu la faute des guerres. Un peu comme si c'est Dieu la faute de ceci, cela. Vous voyez, c'est ça le problème. Dans l'esprit des gens, Dieu fait le mal. Il se trompe d'ennemi. C'est Satan qui fait le mal. Dieu est bon. Et il faut que ça, ce soit dans notre théologie de base. La première chose qu'il faut qu'on sache, c'est que Dieu est bon. Dieu est esprit. Dieu est bon. Un être moral, c'est quelqu'un qui fait le bien alors qu'il pourrait faire le mal. Donc c'est un choix, c'est une volonté, c'est la capacité de décider, la capacité de ta volonté, Josué, la capacité de ta volonté, Monique, de ta volonté, de ma volonté. La volonté, c'est ce qui nous donne la liberté de créer des choses de manière autonome, mais nous sommes responsables et Dieu est responsable et Dieu fait le bien. Ça, c'est très important ce que je dis. Et donc là, dans cette deuxième réflexion que je vous apporte sur le Fils, c'est que le Fils imite le Père. C'est que le Fils, il est un être moral. Nous devons être un être moral dans la société. Non pas que nous devons défendre la justice, avec toutes les armes dehors, non. Nous devons simplement être des instruments de justice. Nous devons dire les choses de la justice dans l'amour. Toujours l'amour, mais dans la droiture, dans la vérité. La vérité, c'est à la base de la réalité de ce que Dieu a fait, de ce qui est bon. Parce que le mal, il a toujours cette empreinte du mensonge. Le père du mensonge, c'est qui ? C'est Satan. Et dans le mal, il y a toujours l'aspect mensonge. Regardez aujourd'hui tout ce qu'on découvre derrière les affaires politiques. C'est des choses cachées. Elles existaient, mais elles étaient cachées. On a voulu les cacher. Si on n'a rien à se cacher, on est dans la lumière. Est-ce que vous avez quelque chose à cacher ? Mettez-le à la lumière, parce que vous ne pouvez pas être des fils de Dieu. Voyez-vous ? Tout à l'heure, vous êtes dit, les uns les autres, vous êtes fils de Dieu. Si vous vous dites fils de Dieu, vous devez dire, vis dans la vérité. Dis à ton voisin, vis dans la vérité. Dis-le, vis dans la vérité. Parce qu'être fils de Dieu, c'est être un être moral. C'est de vivre dans la vérité. Et faire une erreur, être en échec, c'est pas grave, à condition de le reconnaître. Hello. À condition de le reconnaître. Tout à l'heure, on parlait de l'échec. Ok. L'échec, on apprend des choses, à condition de reconnaître l'échec. Et c'est pour ça, ce matin, c'est bien, ceux qui se sont mis devant, parce qu'ils reconnaissent devant tout le monde, c'est un échec. Mais il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte. Mais il faut savoir le faire. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Et quand on est dans l'humilité, c'est qu'on ne se croit pas des super dieux, des héros, je suis en échec, c'est tout, priez pour moi. Mais qu'on a entouré par l'amour, c'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait l'amour. Et je me rappelle John Wimber, qui était un homme qui était utilisé puissamment par Dieu. Il disait, quand vous priez pour les malades, Charles, j'aime bien faire des sketchs avec Charles parce qu'il est nature. Voilà. Alors lui, il marche dans la rue, tu descends, tu montes dans la rue, Et puis vous voyez, doucement. Et puis vous êtes là, vous dites, Seigneur, j'aimerais bien témoigner, j'aimerais bien. Oui, quand même, Seigneur, tu veux m'utiliser, Non, viens par là plutôt, parce que je peux faire le tour de l'église. Non. Mais tu marches, tu siffles, tu regardes le match de foot, je sais pas, tu Walkman, peu importe, etc. Enfin, tu es naturel, quoi, dans la rue. Et moi, je prie, Seigneur, utilise-moi, moi. Ah oui, Seigneur, oui, tu m'as dit aujourd'hui, tu veux m'utiliser pour témoigner. Comment je vais faire tout ça? Tiens, salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est super, match de foot, tout ça. Ah, je vois que tu boites, là. T'as mal, tu veux que je prie pour toi? Oui, la prière, ça se refuse pas. C'est comme l'argent. Ça se... Voilà. Au nom de Jésus, sois guéri. Waouh, il est guéri. Non, reste là. C'est pas évident de faire ça. Pourquoi c'est pas évident? Pourquoi c'est pas évident? Quoi? Non, c'est pas ça. C'est que s'il n'est pas guéri, il va me foutre une baffe. De quoi tu te mêles, tout ça? Voilà. Il faut être honnête, quoi. J'ai peur que ça se... C'est... Vous savez, ce ne serait pas difficile pour chacun de nous si on est sûr que si on fait ça, ça marche. On serait des super-héros, quoi. Je suis le sauveur, là. Il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital. Ah, tu es à l'hôpital? Non, je vais te guérir. Erlo Stegen, il faisait ça. En Afrique du Sud, si vous lisez ses livres, il y a des gens de la brousse qui se déplaçaient en masse et ils étaient guéris. Pendant en route, il marchait des fois 3 semaines pour venir à cet hôpital. Dans cet hôpital, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de chirurgien, il y avait juste des gens qui priaient. Ils priaient, les gens étaient guéris. C'est facile, c'est un investissement facile à faire. Un hôpital comme ça, c'est super. Juste la prière, voilà. Et ils priaient, et ils guérissaient par la prière. Bien sûr, c'est un réveil. Réveil chez les Zoulous. Voilà. Mais là, on vit le réveil chez les Français. Juste pour dire, c'est pas évident. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais plus ce que je veux dire. Non, j'étais sur John Wimber. John Wimber disait, faites ça dans l'église. Tu vois? Maintenant, pour moi, c'est facile, parce que s'il n'est pas guéri, vous n'allez pas me juger. Vous n'allez pas me foutre une baffe. Vous voyez? Il faut le faire d'abord dans un environnement il y a de l'amour. On ne se juge pas. C'est pour ça qu'il faut une église, et ça c'est le rôle, merci, c'est le rôle du responsable spirituel, c'est... Il joue bien. Donc ça c'est le rôle du responsable spirituel de créer dans l'église un environnement de sécurité. De sécurité. Où il n'y a pas de jugement. Parce que sinon, on bloque les initiatives où, effectivement, on va s'exercer au ministère du royaume. Prier les uns pour les autres, prendre autorité dans le nom de Jésus, chasser les démons, et tout ce que Dieu nous demande de faire. Alors, et dans cet environnement-là, fraternel, eh bien, on apprend. Et après, c'est plus facile à sortir, puisque vous le voyez faire dans l'église. Donc vous allez sortir, vous allez un petit peu, hop, vous voyez que ça marche, et hop, c'est bon. Vous voyez, il faut que l'église soit un environnement de sécurité, mais on fait quelque chose, les œuvres du royaume, mais dans un environnement où il n'y a pas de jugement. Voilà, donc je reviens à ce fils qui imite le Père. Donc nous devons imiter le Père. Et qu'est-ce que Jésus faisait dans ses campagnes d'évangélisation, son ministère? Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il faisait ce qu'il voyait faire au Père. S'il guérissait un malade, parce que le Père lui avait montré. Pourquoi Jésus, il n'a guéri que... parce qu'autour de la piscine, il y avait tout plein de gens. Hein. Il n'y avait qu'un qui l'a guéri. Bien sûr, à certains endroits, on dit qu'il priait pour tout le monde, mais à d'autres endroits, il priait pour certains. Parce que le Père lui montrait cette personne-là et pas une autre. C'est pas lui qui décidait, voyez-vous. Donc, il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Et nous, nous devons faire ce que nous voyons faire au Père. Et ça, c'est un apprentissage. C'est pas développer une méthode, vous voyez, et cette méthode, elle marche, non. Même dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. David, à chaque fois, il priait pour les batailles et le Dieu lui montrait que là, il fallait mettre la louange, là, il fallait rien faire, là, il fallait combattre, là, etc. Vous voyez ? Donc, si c'était vrai dans l'Ancien Testament, encore plus dans le Nouveau Testament. J'aimerais terminer dans cette imitation en vous disant que le Fils est le représentant du Père. Et cela est vrai pour un être humain aussi. Mais l'expression souvent utilisée dans la Bible, c'est une idée abstraite. L'idée abstraite, c'est que il n'est pas rare de dire que Dieu est amour. Hein, c'est abstrait l'amour. Dieu est amour. Ou Dieu est bien. Dieu est l'être de puissance, l'être de force. Tout ça, c'est abstrait. Hein. Et on trouve fréquemment dans la Bible aussi donc ces expressions des fils de colère, par exemple dans Éphésiens 2, des fils de rébellion dans Éphésiens, des fils de malédiction, des fils de perdition, des fils d'incrédulité. Donc ça c'est pour des choses négatives, mais pour des choses positives, on le dit aussi. Fils de sagesse, fils de paix, fils de lumière, fils d'obéissance, fils de la promesse dans Romains 9, etc., etc. Voyez-vous, ces idées abstraites, colère, négatif, mais paix, joie, sagesse, lumière, ces idées-là, ce sont des réalités que nous devons incarner. Nous devons être des fils de lumière. Nous devons être des fils de sagesse. Fils, ça veut dire que nous sommes en lien avec la nature du Père. Donc, ce sont des réalités qui doivent s'incarner en nous. Et c'est pourquoi nous devons être des gens qui sommes reconnus comme des êtres de sagesse. Hein, il faut que Josué, Monique te reconnaissent comme un être de sagesse et vice-versa, comme un être de lumière. Voilà. Déjà dans nos proches et dans l'environnement plus loin. Parce qu'en étant fils, nous devons refléter cette chose qui existe en Dieu. Voyez-vous ? C'est ça le fils aussi. Et c'est pour ça que Jésus était fils de cette manière-là de Dieu. Non pas fils comme Dieu aurait fait un enfant avec Marie, hein, comme certaines théologies catholiques disent que c'est la mère de Dieu. Non, ça c'est complètement humain ça. Mais fils, au sens où il reflète toutes les qualités de son père. Il est fils de paix. Il est fils de sagesse, il est fils de liberté, il est fils. Et voilà, il représente cette filiation, donc cette imitation parfaite de son Père. Amen. Et nous, nous devons être de ces gens qui imitons le Père, qui ressemblons à des fils de Dieu. Amen. Et ce que je disais la dernière fois, je termine par ça, nous sommes non pas fils comme Jésus, par nature, il était Dieu, mais par adoption. Dieu nous a adoptés. Et là encore, c'est une grâce et un sujet de reconnaissance. Dire, Seigneur, merci parce que tu m'as adopté. J'étais perdu et tu m'as adopté. Amen. Et je voudrais aussi vous rappeler cette parabole du fils prodigue qui nous montre que le fils prodigue, effectivement, il a subi un échec par sa faute. Par sa faute, c'est vrai. Mais cet échec l'a amené à considérer le Père d'une autre manière que ce qu'il avait auparavant. Alors que le fils aîné, lui, il n'a pas subi d'échec. Il a toujours été le fils bien sous tout rapport. Sauf que quand le Père a honoré le fils prodigue, sa colère a monté. Et là, il est devenu méchant. Vous voyez, comme quoi, j'aime bien les livres de John White qui parlent de je ne sais plus comment c'est le titre, mais ce livre-là, c'est mon livre de chevet, enfin, ça l'a été, où il dit, on a tous des bêtes à la cave. Et les bêtes à la cave se réveillent quand on ne veut pas qu'elles se réveillent. Donc il vaut mieux que ces bêtes à la cave, on les traite avant qu'elles ne se réveillent. Je vois Marie-Renée qui a parlé de sa colère. Il vaut mieux que tu sois débarrassé de cette colère. Parce qu'un jour, tu aurais pu casser toute ta vaisselle. Ça aurait coûté cher. voilà. Enfin, je plaisante. Mais vous voyez, il vaut mieux que ces bêtes à la cave, elles sortent. Donc les échecs, souvent, sortent les bêtes de la cave. Donc l'échec est formateur dans cela. Si nous abandonnons ces bêtes, enfin, l'origine qui produit ces bêtes, en disant, Seigneur, tu vois, merci parce que là tu m'as montré qu'il y a des choses mauvaises en moi. Je veux les abandonner. Aide-moi, guéris-moi, transforme-moi parce que je veux être fils de Dieu. Je veux être fils de la justice, fils de la lumière, fils de la sagesse, fils de l'amour. Amen. Et alors nous serons des fils de Dieu. Donc il y a une part qui nous est demandée après avoir reçu toutes les grâces de Dieu. La part, c'est de chercher à imiter le Père dans tous ses aspects. Amen.